19h-20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
Pas facile de mettre la main sur lui, il est toujours en vadrouille. Mais moi je l'aime bien depuis longtemps et j'ai croisé le chanteur Antoine dans l'émission de Thomas Hill l'autre jour. On a parlé bouquins après. Je lui ai demandé si on pouvait les voir, ses livres. Il a dit ok, d'autant plus qu'il publie Guide pratique pour mettre les voiles. C'est chez Gallimard, un beau livre avec photos et tout, qui, comme son titre l'indique, donne tous les conseils pour mettre les voiles au sens propre, naviguer sur un voilier, mais aussi tout ce qu'il faut savoir pour partir d'une manière générale. C'était l'occasion. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Eh ben, je suis pas déçu. Merci beaucoup parce que donc, je voulais visiter vos livres. Je vous ai croisé dans les couloirs d'Europe 1. On a commencé à parler bouquins. J'ai dit, mais est-ce que je pourrais visiter la bibliothèque? Vous m'avez dit, ouais, mais c'est un peu loin, c'est en Auvergne. J'ai dit, bah, est-ce qu'on peut aller chez Sandrine Babu à la librairie L'Instant? Et puis, vous me ramenez quand même quelques bouquins à vous. Et bon, parfois, les gens ramènent 5-6 bouquins et c'est hyper sympa. Mais vous, vous avez carrément rapporté une valise, un trolley.
Petite valise.
Alors juste parenthèse, c'est une valise cabine d'avion, voilà. Un trolley, quoi.
Voilà,
moi,
ça.
Je vous imaginais avec un sac marin, quoi.
Non. Quand même. Bon, les livres, ils sont pas en très bon état, mais dans un sac marin, ils souffriraient, les pauvres, hein, quand même.
Un peu
de respect pour le livre.
Quand vous partez en voyage, vous allez au sac marin. Faut garder.
Non, le sac marin, j'ai jamais eu le caouet, les bottes et le ciré, assez peu.
Juste, il y a une question qui me vient parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont des pseudos. Et vous, en fait, dès que je parle de vous, dès que je dis je vais faire la bibliothèque d'Antoine, parfois je rajoute Antoine le chanteur.
Oui, bah, il faut, là. C'est ça le problème. Renaud me disait la même chose. Il est Renaud. On dit, oui, j'ai vu Renaud. Ben, quel Renaud? Ben, Renaud le chanteur, quoi. Voilà. Il lui dit, le chanteur énervé. Moi, je suis le chanteur énervant. Non, voilà.
Vous avez dû le raconter 1000 fois, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce pseudonyme?
Antoine? C'était mon deuxième prénom. Voilà. Mon deuxième prénom. Je m'appelle Pierre Antoine. Mon père était corse. J'avais le prénom Antoine que ma mère n'aimait pas parce qu'elle n'aimait pas beaucoup la Corse. Elle n'aimait pas l'île de mon père. Les cheveux sont venus plus tard. Mais par contre, quand je suis arrivé à l'adolescence et ensuite, surtout à l'âge adulte, eh bien, j'ai choisi le prénom, mon deuxième prénom.
Oui, mais pourquoi vous avez gardé que le prénom pour votre nom de scène?
C'était parce que j'ai commencé à chanter et ça se faisait beaucoup à l'époque en France. En Amérique, c'est presque inconnu, à part Madonna ou Cher. Il n'y a pas de mononyme comme ça.
Tandis qu'en
France, il y en avait plein, Christophe, Adamo, oui. Et ainsi de suite.
À quoi ressemble votre bibliothèque en Auvergne?
D'abord, ma bibliothèque, elle est multiforme parce qu'elle est un peu en Auvergne, elle est un peu sur mon bateau qui est en Australie actuellement, elle est beaucoup sous forme numérique, tenant très peu de place dans une tablette, elle est un peu multiforme. En Auvergne, c'est simple, ça, c'est des livres que j'ai rassemblés au fil de ces 50 ans, depuis que 50 ans que je suis propriétaire de cette ferme dont personne ne voulait à l'époque où je l'ai acheté, et c'est simplement 3-4 étagères tout à fait basiques sur le mur de la chambre, avec des centaines de livres. Avec quelques ovnis, par exemple, sur la photo. Je vous ai apporté la photo de cette bibliothèque.
Aussi.
Voilà, c'est pas très radiophonique, mais...
Non, il y a une photo, et ouais. C'est pas mal, parce que je peux voir directement ce qui se passe. Alors ça, c'est toute une collection, c'est une encyclopédie.
Ah oui, ben là, il y a un ovni dans cette bibliothèque. C'est la seule encyclopédia Britannica qui a fait le tour du monde en solitaire.
Parce que Elle était sur le bateau?
Oui, sur le bateau. Elle était tout seul sur un bateau d'une goélette de 14 mètres. Et j'ai fait le tour du monde avec, et je m'en servais, sitôt qu'il fallait quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout comme ça. Hein. Donc, je m'en servais de temps en temps. Je me rappelle avoir calculé la date de Pâques pour la date du carnaval à Rio. Et il fallait, j'étais en mer, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien et tout. J'ai sorti l'encyclopédie et j'ai pu déterminer, c'est une chose très compliquée, la date de Pâques, donc du carnaval.
On va y venir à ce que vous nous avez apporté, parce que quand même, vous avez fait l'effort. Mais là, sur la photo, je vois pas mal d'exemplaires de bouquins de Colette.
Oui,
j'ai un rapport particulier.
Non, j'ai eu une époque Colette. J'ai adoré Colette. Ça me donnait du goût, comme elle disait, comme elle écrivait. J'ai du goût. C'est qui voulait dire j'ai du plaisir, voilà.
Ça vous donnait du goût.
J'ai du goût, disait Colette. C'était une de ses phrases de sa campagne, qu'elle qu'elle ramenait de sa campagne.
Avec son accent si particulier. Et alors là, il y a toute une collection et vous en avez ramené deux exemplaires.
Voilà,
des livres à la tranche aux couleurs assez vives comme ça. Il y a La rage de survivre, il y a Naufragé volontaire, il y a Damien, il y a Globe flotteur. Qu'est-ce que c'est ?
Voilà, l'étagère tout entière du haut, ce sont des livres nautiques, des aventures. Il y a un peu de Jules Verne aussi, il y a des choses comme ça, mais c'est toutes ces aventures nautiques chez les pirates, etc. et tout. Et là, il y avait une collection qui était grandiose, qui était chez Jacques Arthaud, le père de Florence Arthaud, la collection mère chez Jacques Arthaud, et qui a édité Moitessier, Tabarly, Alain Colas, tous les grands champions de l'époque, et puis aussi des Anglais, des choses comme ça, mais aussi d'autres, des livres plus amusants, des livres particuliers et tout. Et ici, j'ai ce livre de Damien, qui était deux garçons qui avaient fait un tour du monde tout à fait historique sur un petit voilier en remontant l'Amazone et en un. Voilà, c'est ça,
les Damien.
Et j'ai eu l'honneur d'avoir de publier donc dans la même collection trois livres racontant mon premier voyage. Voilà.
Globe flotteur, c'est vraiment pas mal trouvé.
Oui.
Ou les sept péchés capitaux du navigateur solitaire.
Voilà.
Quoi dedans, en fait, c'est vos aventures à vous.
C'était une alternance de récits simplement depuis mon départ. Et puis de réflexion, tout ça, assez légère sur les sept péchés capitaux.
Et alors, il y en a un très vieux aussi, là, qui est très joli, et d'un ami à moi en plus, qui s'appelle Boris Vian.
Oui.
Vous êtes ami avec les écrivains que vous aimez, vous aussi, y compris quand ils sont morts ?
Oui. Donc, Boris est un ami à vous, c'est bien.
Eh ben oui, un très très bon ami.
J'allais dire quand même, il est jeune. Vous êtes jeune parce qu'il
Alexandre
est mort.
Alexandre Dumas aussi, hein, Stéphane Guic aussi.
D'accord.
Et puis Colette.
J'aurais un peu plus de proximité avec Boris que j'ai jamais rencontré.
Ça m'étonne pas du tout que vous soyez ami avec Boris.
que j'ai jamais rencontré, mais il était centralien comme moi.
Ah, mais voilà, c'est ça.
Il a fait l'école centrale. Et sans aucun rapport, quand un jour c'était sur les bancs de l'école centrale, dans l'amphi, pendant le cours, d'un professeur qui nous ennuyait un petit peu, il y a un copain qui m'a glissé, non pas ce livre-là qui est en verve, qui est un petit de mots de Boris Vian, mais simplement L'écume des jours, quoi.
Et, ouais.
Et voilà encore un livre qui m'a changé la vie, quoi. Changé la vie totalement, Boris Vian. Donc Boris Vian fait partie de tous les gens que j'ai suivis comme ça. Il y a d'autres, par la suite, il y a eu Georges Perec.
Georges Perec aussi.
Et où j'adorais en particulier ses jeux avec les mots. De toute façon, la disparition, tout ça et tout.
Là, vous en avez ramené un qui s'appelle Quel petit vélo a guidon chromé au fond de la cour.
Ouais, c'est son deuxième livre après Les choses, quoi. Les choses, ça m'avait changé la vie aussi, vraiment. Hein, le premier Perec, mais tout Perec, j'ai suivi jusqu'au bout, énormément.
Et vous êtes du genre obsessionnel quand vous aimez un écrivain, vous lisez toute son œuvre, ou alors vous restez sur
ses bouquins. Bon, il y a par exemple un écrivain quand je vous disais que j'ai lu la science-fiction, on pourrait parler pendant des heures comme ça. On avait commencé avec Jules Verne, mais ensuite Bradbury,
Lovecraft,
tout ça, des tas de gens comme ça. Et puis j'ai découvert des auteurs, bon, Kerouac dans un autre genre et tout. Et puis j'ai découvert des auteurs inconnus en France. En particulier, je voulais parler d'un petit mot de trois géants pour moi, trois géants américains très peu connus en France. Uh-huh. Un d'abord dans l'ordre chronologique, Mitchener qui avait fait un énorme succès après la Deuxième Guerre mondiale, racontant un petit peu sa vie là-bas pendant la guerre et
James Mitchener.
Et il a écrit une vingtaine ou une trentaine de livres énormes, un millier de pages, racontant des histoires de fiction, mais présentant chaque fois un pays différent.
Là, c'est Hawaï.
Il y avait Israël, il y avait l'Afrique du Sud. Et en lisant son livre, on apprenait infiniment plus que si on apprenait un traité de géographie ou d'histoire. Quoi. C'était ses livres. Il en a fait une vingtaine.
C'est un roman.
C'est des romans, avec des personnages incroyables. Il y a une table des matières généalogiques, parce qu'il faut suivre les gens depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Quoi.
C'est des romans monde. Oui,
Mitchener, je conseille vraiment. Hein. Je conseille vraiment, vraiment, c'est incroyable.
Mitchener, c'est M-I-C-H-E-N-E-R. J'avais jamais entendu parler. Hawaï, c'est un de ses romans.
En France, un seul a été connu parce qu'il a été adapté en cinéma, aux vidéos, à la télévision. Ça s'appelait Colorado Saga. En français, Colorado Saga. Mais Mitchener, j'ai lu au moins 25 ou 30 de ses livres.
Hein. Là, c'est un vieil exemplaire, c'était un peu années 70, 80.
C'était des jours et des jours à lire dans le bateau. Mitchener.
Quand est-ce que vous lisez dans le bateau?
Quand est-ce que je lis?
Quand vous mettez, quand vous avez tout bien calé. Et puis
bah, toute façon, le bateau.
Alors que quand c'est arrêté.
Le bateau, par principe, surtout quand on est seul, le principe de base, c'est de pas avoir à barrer. C'est pas, on reste pas à la barre toute la journée et toute la nuit, hein, parce que sinon, ça serait impossible. Donc, il y avait des systèmes mécaniques. Maintenant, c'est des pilotes électriques. Mais si tout marchait bien, on avait toute la journée des heures et des heures pour lire, quoi. Donc, j'ai lu des quantités de livres comme ça. Voilà. Alors, un deuxième personnage.
Pardon. Vous êtes installé où quand vous lisez, par beau temps?
Ça peut être n'importe où, dans le cockpit ou dans le bateau s'il fait pas beau. J'ai lu, j'avais à l'époque des yeux de plus jeunes, j'ai lu des quantités de livres, des milliers de pages à la lumière d'une petite lampe à pétrole, quoi. Une petite lampe à pétrole.
Dans le carré, quoi.
Une lampe tempête, oui, dans le carré, voilà, c'est ça. Et dans autre, et ça m'étonne que vous le connaissiez pas parce que c'est un garçon qui pourrait être votre ami, lui. C'est Tom Robbins. Tom Robbins, premier livre a été un peu connu, Even Cowgirls Get the Blues, était connu en France un tout petit peu, même les Cowgirls ont blues. Il a été une star de rock de la littérature. Une star de rock, il fait sans doute encore des conférences avec des milliers de personnes qui mettent des vêtements, des t-shirts à son effigie et tout. Et c'était, ses livres, c'était toujours une imagination absolument folle qui vous emmenait dans des pays incroyables avec un style, une écriture absolument fascinante, très très abusante que j'adorais, voilà.
Avec une couverture très très colorée, très, colorée, très voilà. À l'américaine.
Alors il y a un éditeur, je vous saurais le retrouver, un éditeur français qui a traduit tous ses livres récemment. Parce que le dernier, le plus récent, date de 2009 ou 2005, et ils ont été traduits en France, publiés en France en français, et très très bien traduits par un traducteur français. Et c'est, j'ai pas le nom de l'éditeur, mais vous allez le retrouver. Là.
Tom Robbins. Et alors, il y a en épigraphe quelques mots de Aldous Huxley, l'auteur du meilleur des mondes.
Oui.
I want God, I want poetry, I want danger, I want freedom, I want goodness, I want sin. Je veux Dieu, je veux la poésie, je veux le danger, je veux la liberté, je veux la bonté, je veux le péché. C'est un peu votre devise, ça.
Oui, c'est un petit peu ça. Ah ben, de toute façon, alors lui, Tom Robbins, il m'a changé ma vie. Ah, totalement. Vraiment, il m'a changé ma vie parce que c'était une image de cette période qui a commencé dans les années 70, quoi. Cette période où il y avait une liberté extraordinaire dans l'écriture, dans les mœurs, dans les, vraiment, c'est, pour moi, c'est un géant, absolument. Et puis, je voulais citer également un personnage, pas connu en français.
Attendez, on va y revenir, mais je voulais faire un lien avec ce que vous venez de dire avec Henry Miller, Nexus, qui est aussi dans le genre libre et indépendant et un peu barré aussi.
Oui, et j'ai connu l'époque où il y avait littérature. Bon, j'ai connu l'époque où les gens frétillaient à l'idée, la moindre suggestion d'un peu de sexualité dans les c'est quoi, les Thibault, là, le livre
de, bien, de Roger Martin Dugard.
Ou bien dans Madame Lady Chatterley, l'amant Lady Chatterley et tout. Et puis dans les années 70, c'est arrivé une espèce de libération où ces livres qui étaient cachés dans une étagère très, très secrète de la librairie sont tout d'un coup revenus avec Emmanuel, avec Histoire d'eau, Histoire d'eau qui était un très beau livre de littérature aussi, mais avec une littérature, avec une liberté sexuelle qui n'existait pas et qui existe peut-être moins maintenant.
Et puis une inventivité. D'habitude, les écrivains font très attention à leurs premières phrases. C'est important, l'incipit et tout. L'incipit de Nexus, c'est des aboiements. C'est « wah, 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 wah ». Aboiement dans la nuit, ça continue. Jap, jap, je pousse des cris, mais personne ne répond. Je hurle, mais pas le moindre écho.
J'ai une photo de moi sur le premier bateau. Vous demandez où je lisais. Il y a une photo de moi qu'on a dans mes archives. C'est sur le pont du bateau. J'avais une espèce de chaise longue que j'avais piquée dans un endroit, dans un hôtel du bout du monde. J'avais installé sur le pont et j'étais là en plein soleil, sous voile, comme ça, le bateau se conduisant tout seul. Et je lisais Sexus ou Plexus ou Nexus, un des trois livres, un des trois de la trilogie. De...
Bonheur.
Ouais, c'était le bonheur.
Jimmy Buffett, alors.
Alors, Jimmy Buffett, c'est avant tout. Alors, c'est un ami au sens propre, parce que j'ai eu le bonheur de le connaître. Il m'a même invité une fois à chanter à l'Olympia avec lui. Immense chanteur italien. Immense chanteur américain, qui a fait un tube énorme Et ensuite, il a rempli pendant toute sa vie, il est mort il y a moins d'un an, il a rempli toute sa vie toutes les salles avec de 35 000 personnes, des stades et tout. Et c'était des gens qui venaient faire la fête, qui arrivaient grimés avec des costumes incroyables, des couleurs, des chemises à fleurs, des margaritas. Il a fait un tube qui s'appelle Margaritaville. C'est dans Wasting Away Again in Margaritaville, et qui est devenu tout un truc de une philosophie complète. Comme ça. Et énorme succès, très très grand chanteur. Il venait de temps en temps chanter à Paris, mais c'était uniquement pour des Américains à Paris. Et puis voilà, moi j'ai eu le bonheur de le connaître. Il voyageait autant que moi, lui avec des avions et des bateaux aussi. Et il est décédé récemment. Et un jour, il a écrit un livre inspiré de ses aventures. C'est pas un récit du perso autobiographique, c'est un roman avec des retournements hallucinants, un talent incroyable qui s'appelle Where is Joe Merchant, mm-hmm. Where is Joe Merchant, qui n'a pas été traduit. J'ai eu très souvent envie de le traduire, moi, parce que je maîtrise ces univers, son univers, l'univers du bateau, ça se passe dans les Caraïbes, dans des bateaux avec toutes sortes de folies complètes et d'hydravions. Il pilote un hydravion. Et c'est un livre qui a été pendant des mois et des mois numéro un des ventes en Amérique, comme ça, voilà.
Et pourquoi vous ne l'avez pas traduit alors?
Parce que la vie est trop courte. Ça viendra peut-être un jour.
Il faut quand même qu'on parle de Jules Verne, parce que vous avez apporté le rayon vert et non pas le tour du monde en 80 jours, qui est superbe aussi, ou de la Terre à la Lune. Le rayon vert, il est moins courant.
Oui, il est moins courant, mais il est fascinant quand même, parce que c'était un des Jules Verne les plus simples. Toute l'histoire est basée sur un centième de seconde. C'est l'instant où le soleil se couche, il fait non pas un immense rayon vert, mais une petite perle de rayon. J'ai eu la chance de le voir quelques fois, et ça existe réellement, d'aucun en doute, parce que c'est pas facile de le voir.
Mais
Jules Verne, il a fait un livre entier qui tient à ce dixième de seconde. C'est l'histoire d'aucun intérêt. C'est un garçon qui est amoureux d'une femme, et puis elle veut absolument voir le rayon vert et tout, et puis elle finit ça sans fin et tout. Et vraiment, ce n'est pas un trop gros livre. Et puis à la fin, quand elle voit le rayon vert, manque de peau, il y a un voilier qui passe devant. À l'instant où le soleil se couche et qu'il y a le rayon vert, il y a un voilier qui passe devant et il ne le voit pas. Voilà,
C'est bien quand il y a un voilier quand même.
Oui.
Il faut toujours qu'il y ait un voilier quand même qui traîne quelque part. Il y en a assez peu dans les comics américains. Vous en avez apporté un aussi.
Oui, ça c'est aussi.
Vieux comics Batman.
C'est aussi une nostalgie de l'époque où les Batman et autres et Spider-Man et tout n'étaient pas des trucs pleins de violence et d'explosions haletantes en permanence, où c'était plutôt sage et cool. C'était les comics de l'époque.
Marrant,
oui, c'était. J'adorais ça. J'adorais la BD, les BD à l'époque. Des gens aussi en France, des tas de gens, ou en Italie, j'adorais plein de choses, Manara ou bien Mandrika ou tant d'autres. Quoi.
Ah, Manara, c'est beaucoup moins sage déjà.
Ah, c'est beaucoup moins sage. Manara, c'est moins sage.
Alors vous avez apporté aussi, ça j'adore, un vieux bouquin de physique, révision du baccalauréat.
C'est terminal.
Pratique, Bordas. Bordas éditeur, c'était à vous?
C'était à moi, c'était mon guide. J'avais un truc, c'était que les lycées nous faisaient toujours acheter des livres qui étaient moches. C'était le livre obligatoire qui était moche, qui était pas. Et puis il a commencé à sortir des trucs pratiques, des guides pratiques qui étaient beaucoup plus intelligents. Et moi, j'étais un polar, hein. Je travaillais dur et j'achetais toujours des trucs comme ça. Et du coup, ça m'incitait à travailler. J'étais bon élève.
Ça vous a incité, ça vous a inspiré pour le titre de votre livre, guide pratique,
voilà.
Pour mettre les voiles.
Oui, il y a une part. C'est vrai que c'est un livre qui on essaye d'associer aussi bien le rêve, parce qu'il y a plein de choses, beaucoup d'anecdotes, de voyages. Il y a plein de gens qui ont envie de partir en voyage comme ça et puis qui n'osent pas. Et là, pour ceux qui n'auront pas envie de partir, il y a plein d'anecdotes qui peuvent les faire rêver directement. Et puis, il y a également la technologie pratique. Il y a une méthode de navigation, même navigation astronomique, qui n'est plus incluse dans le livre. Mais dans le livre, il y a beaucoup de QR codes qui conduisent à des tas de choses qu'on a mis sur notre site internet, des tas de choses additionnelles, entre autres toute la méthode pour faire le point, si on veut, grâce au soleil.
J'ai failli parier avec Julien, notre ingé son, avant de rentrer, que vous apporteriez Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Mais vous n'avez pas apporté. Non, c'est pas, ça fait pas partie de vos livres de chevet.
J'aime bien, j'aime bien les grands écrivains voyageurs comme ça, mais j'ai une, disons que ma culture, elle est beaucoup plus mondialiste, quoi. Elle est beaucoup, elle m'emmène partout, et puis elle est beaucoup plus variée, quoi. Je suis pas, je vous parlerai pas dans, non plus de Camus ou de, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ma, vous avez la variété, c'est aussi bien des choses qui sont pas du tout de la littérature, quoi. Ouais. Que s'il y a des choses très variées, et c'est le propre de ma bibliothèque. Elle comme ça, quoi.
Bah, merci beaucoup d'avoir apporté autant, d'avoir partagé autant. Merci beaucoup, Antoine.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt. Et bonne lecture.
Europe 1, 19h-20h, La Voix est libre.